Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, c'est Cinérama. Nous allons parler de films qui sont sortis le 16 novembre et puis d'autres qui sortent le 23. Ce sera le cas de La fille de Brest d'Emmanuel Berco et aussi eh bien, de Louise en hiver, film de Jean-François Laguillonni, film d'animation. Et nous écouterons le réalisateur de 77 ans dans cette émission. Et puis quant à toi Manu, tu parles d'un film jordanien.
Oui, Tib, film jordanien. Et puis je vous parlerai aussi d'un thriller qui est sorti cette année, un thriller français, Iris.
Et puis toi Marine, eh bien, ce sont les films qui sont sortis le 16 novembre.
Oui, en effet, je vais vous parler de Tour de France de Rachid Djaïdani, le nouveau film avec Gérard Depardieu, et également de Planétarium avec Nathalie Portman.
Et puis moi, eh bien, j'en terminerai avec Paulina, Danser la vie, ça aussi c'est sorti le 16 novembre, film sur la danse contemporaine, enfin un, c'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
On avait laissé Emmanuel Berco avec la tête haute il y a 2 ans, film ancré dans le monde des éducateurs pour enfants. Voilà que la réalisatrice nous revient avec un sujet qui touche cette fois-ci la santé publique, le Mediator. Un gros scandale qui aura mis du temps à émerger entre la mise en circulation du médicament antidiabétique, utilisé aussi comme coupe-faim en 76, les premières critiques sur son efficacité et les risques cardiovasculaires en 97, et puis eh bien, les premières alertes sérieuses envoyées en 2007. Il aura fallu encore attendre quelques années avant que les autorités sanitaires daignent intervenir. En novembre 2010, le chiffre de 500 morts est confirmé officiellement par la Caisse nationale de l'assurance maladie et s'ensuit donc un procès contre Jacques Servier, le PDG du laboratoire du même nom, qui a fourgué la molécule pendant toutes ces années. Alors voilà pour le volet judiciaire. La fille de Brest a déjà cet intérêt de raconter l'histoire pour tous ceux qui l'auraient oublié, mais la fille de Brest raconte surtout comment une telle affaire a pu apparaître. Si les effets du Mediator ont été dénoncés, on ne le doit pas à la vigilance d'un service de l'État, mais à une femme médecin, Irène Frachon, pneumologue à l'hôpital de Brest, d'où le titre de ce film. Alors en suivant ses patients, la spécialiste découvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise du Mediator. Elle ne s'arrête pas à cette intuition, mais décide de réunir des gens pour l'aider à comprendre et ensuite à prouver les dégâts causés par la molécule du laboratoire Servier. Alors c'est l'autre aspect de La fille de Brest, le portrait d'une femme qui est de tous les plans. On est évidemment en plein biopic avec une nette dimension cinématographique puisque c'est le visage lumineux de Citze Babette Knussen qu'on a vu dans Borgen notamment et qui apparaît de plus en plus dans le cinéma français. Et c'est elle donc qui incarne le médecin.
La guerre aux méchants labos, c'est ça ? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible.
Si la recherche est pour le service des malades, alors pourquoi faire ce métier ?
On va se faire tailler en pièces !
Pas de panique.
Avoir une grande gueule, tu crois que ça suffit ? Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau, Madame Irène Frachon, et on va voir comment tu te démerdes.
J'arrête, c'est fini. J'ai pas les épaules. Je n'en peux plus.
Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout.
J'ai peur.
Il n'y a pas de vrai combat sans peur. Tous les vrais résistants ont peur. Qu'est-ce que tu crois ?
Bah moi je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts ?
D'avoir un résultat surprenant, posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai ?
Alors, l'un des modèles d'Emmanuel Berco est Erin Brockovich de Steven Soderbergh. On s'en doute, car ce film a marqué de nombreux spectateurs. Alors, Brest n'est pas la Californie, mais l'ambition d'Emmanuel Berco est autant de nous plonger dans la révélation d'un scandale que d'insister sur la force de son personnage. Alors, elle doit réunir le puzzle en ménageant le rôle des autorités sanitaires, la connivence de certains scientifiques avec les labos, toutes les embûches à la révélation de la vérité, sans noyer le spectateur dans l'information. Et on peut dire que la réalisatrice y parvient en se servant de tous ces éléments pour rythmer son récit. Mais comme son récit n'est rien sans son personnage, eh bien, la réalisatrice doit aussi le ménager. Et là, Emmanuel Berco met en scène la force, le courage, l'obstination qui accompagne Irène Frachon dans son combat pour les malades. On passe ainsi par les joies, les larmes, les disputes. Alors ça apparaît plutôt banal, hein, mais quand c'est bien fait, eh bien, on ne va pas s'en plaindre. On devine au fil du film que si cette femme résiste, s'obstine, c'est qu'elle a en elle une force intérieure qu'on peut appeler sens moral ou foi, et qu'elle est solidement entourée par une famille dépeinte un peu trop idéalement. Alors, il se trouve que Emmanuel Berco n'a pas voulu évoquer la question du protestantisme si forte dans le personnage de cette femme médecin. Voilà, elle l'a complètement occulté, mais il semblerait que ce soit quelque chose qui ait aidé la femme médecin a porté l'affaire du médiator sur la place publique. Alors si la mise en scène s'articule autour du personnage principal et de ses révélations, on assiste à deux moments forts cinématographiquement. Il s'agit d'une opération à cœur ouvert, bon, qu'on a pu voir aussi dans d'autres films, surtout dernièrement, et d'une autopsie dont la vision peut être un peu rebutante, mais dont la présence est pertinente dans le récit, lui donnant un impact encore beaucoup plus fort. Le film est donc documenté, intelligent, rythmé, sensible, et avec ça, l'interprétation de Citze Babette Knudsen est réussie. Et les deux heures du film passent très vite. La fille de Brest sort ce 23 novembre.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors après le biopic luxueux Yves Saint-Laurent, hein, Jalil Lesper ne déserte pas un territoire de cinéma chic et ambitieux avec son nouveau projet, une relecture moderne du néo-film noir hitchcockien. Alors remake d'un excellent thriller hein, aussi modeste que ludique intitulé Chaos de Hidao Nakata, l'auteur de Darkwater et Ring. Iris démarre plutôt bien et laisse présager ce qu'on pourrait appeler un bon film de genre. L'entrée en matière est même assez excitante. Une jeune femme mariée à un riche banquier, Antoine Duriau, disparaît. Max, un mécanicien, pourrait être impliqué dans l'enlèvement. Il l'est d'ailleurs, mais pas tout à fait comme on le croit.
Qui est-ce ?
L'homme qui est ta femme.
Iris ?
Antoine ! Antoine, je le rendrai à la maison.
Iris ?
Je le rendrai à la maison.
Je comprends la situation, Antoine.
Qu'est-ce que vous voulez ?
De l'argent.
Combien ?
Qu'est-ce qu'elle vaut pour toi ?
Je paye tout ce que vous voulez, seulement vous ne la touchez pas.
Mais je la touche en ce moment, Antoine. Je vais glisser ma main entre ses jambes.
Je vous en supplie.
C'est ce que je touche, là, Antoine.
Arrêtez, ne faites pas ça.
Qu'est-ce que je touche ?
Arrêtez.
Si tu veux revoir ta femme, tu vas faire exactement ce que je te dis.
Donc afin de préserver hein, les quelques surprises de cet exercice de style à la manière d'eux, il est préférable de ne rien dire de plus. Hein. On risque vraiment d'ôter à tout intérêt d'un film consternant de A à Z, alors sauf pour ceux qui aiment les intrigues tarabiscotées à base de rebondissements grotesques. Enfin, si chaque coup de théâtre tombe à plat, hein, c'est pas tant à cause d'un scénario bourré d'invraisemblance, mais du choix de mise en scène pour illustrer ce type de scénario. Là où il faudrait s'inspirer, sans parler d'Hitchcock, d'un Brian De Palma ou à la limite d'un Chabrol, pour apporter un peu de folie et de dérision, voire une bonne dose de second degré à une histoire qui ne tient pas vraiment la route, Jalil Lesper, sérieux comme un pape, commet une erreur fatale, un contresens rédhibitoire en allant chercher l'inspiration du côté du cinéma esthète et raffiné de Michael Mann. Alors on retrouve ce goût pour les baies vitrées réfléchissantes, les décors modernes aseptisés, le soin maniaque apporté au cadrage, l'aspect aussi figé des comédiens qui annoncent des dialogues très concernés et qui reflètent vraiment un total manque d'humour. Alors autant de motifs sublimés chez l'auteur de Miami Vice, mais ici d'un ridicule affolant. Alors il ne reste que des tics de cinéma, des affaîtris chichiteuses qui décrédibilisent cette histoire machiavélique qui dérape vers un humour involontaire à plusieurs reprises. Alors dès qu'on bascule dans le Paris interlope des clubs privés échangistes, le film sombre corps et âme dans les arcanes de la nullité et rappelle davantage des naftons comme 50 nuances de grès ou la disparue Deauville, je ne sais pas si vous vous rappelez ce machin de Sophie Marceau avec Christophe Lambert, alors que ces modèles avoués ont un vertigo en tête. Alors pour couronner le tout, les comédiens sont assez pitoyables, hein, y compris Romain Duris qui peine à défendre un personnage ultra caricatural d'ouvrier moustachu, évidemment un peu rustre. Alors c'est vraiment une purge à mon avis. Hein. Autant revoir l'original, malheureusement inédit en salle, mais trouvable en DVD.
Après Jalil Lesper, eh bien ça va être Depardieu dans un film.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Oui, on continue avec Tour de France. Alors, suite à une rixe causée par un selfie, le rappeur Farouk, interprété par Sadek, qui est un vrai rappeur dans la vraie vie, Farouk décide de disparaître quelques temps et se fait embaucher comme chauffeur par Serge, un ouvrier parti arpenter la France pour en peindre les ports. Serge étant évidemment Gérard Depardieu. Oui, alors déjà, dès le début, c'est complètement bancal. Hein. Entre le vieux raciste et le jeune des banlieues, le clash est inéluctable, mais se pourrait-il qu'ils finissent par dépasser leurs préjugés pour apprendre l'un de l'autre ? Bon, je vous le dis tout de suite, oui. Alors malgré toutes les bonnes intentions du réalisateur, hein, que l'on avait connu avec le très remarqué Rengaine, Rachid Jaidani, ce Tour de France pédale dans une choucroute niaise et démago. Le méchant raciste s'avère en fait pas si méchant, et puis le rappeur rebelle se révèle un poète qui récite l'Albatros de Baudelaire et qui connaît Serge Lamal, ce qui signifie quand même qu'il n'est pas si méchant que ça. Hein. Le réalisateur a manifestement laissé ses bonnes intentions outrepasser la cohérence du récit. Résultat, en plus de souffrir d'arrêt le film enchaîne des scènes auxquelles on ne croit absolument pas. Tout dans ce Tour de France est profondément gênant, l'humour est téléphoné, les dialogues sont artificiels. Cette enfilade de scènes boursouflées de bons sentiments sonne aussi faux que le rappeur du film lorsqu'il essaye de chanter sans autotune. Alors en tout cas, c'est vraiment pas avec son talent que... les détracteurs du rap changeront d'avis à la vision du film. Bon, en même temps, je ne sais pas trop si je peux m'exprimer là-dessus, vu que, évidemment, je n'y connais rien en rap. On va justement écouter Sadek, le personnage principal du film, qui nous en parle.
Je ne le connaissais pas du tout, moi, parce que comme vous êtes tout spécialisé cinéma et tout, ça peut vous paraître grossier. Mais vous connaissez rien en rap, j'imagine aussi. Moi, tout ce que je connais de Gérard Depardieu à la base, c'est Obélix. Donc, quand je le rencontre, je vois Obélix. Rien de plus, rien de moins. Je connais pas les valseuses, je connais pas son œuvre. À la limite, j'en ai rien à faire. Et quand il m'a regardé dans les yeux pendant une minute, j'ai vu beaucoup de choses. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est quand il a commencé à regarder les autres. C'est-à-dire que là, dans la pièce, tout de suite, il peut vous déstabiliser tous autant que vous êtes. Il vous regarde dans les yeux, il peut trouver toutes vos faiblesses, tous vos trucs, qui s'est fait martyriser quand il était petit, qui cache son homosexualité, qui est bizarre, qui est truc, qui est bon au fond alors qu'il passe pour un con. C'est incroyable. Et il est souvent peint dans la presse comme une personnalité excessive. Moi, j'ai trouvé quelqu'un de très équilibré et de très, très cultivé et de très gracieux, en fait. C'est incroyable, mais c'est vraiment moi l'image que j'en ai vue.
Voilà, alors donc les critiques cinéma, évidemment, n'y connaissent rien en rap et Depardieu est médium. Depardieu réussit à lire dans les gens comme Madame Soleil. Alors Depardieu, bah parlons-en quand même, faudrait un moment cesser de crier au génie dès qu'il arrive devant une caméra. Présentement, sa prestation est catastrophique, hein, n'ayons pas peur des mots, il est proche de l'apoplexie à la moindre parole et ne livre qu'une pathétique caricature de lui-même. Je pense notamment à cette scène où il décide d'improviser une Marseillaise version rap. Alors lui et le réalisateur ont dû se dire sur le moment qu'ils étaient en train de tourner une scène hautement subversive et symbolique, mais en fait c'est juste très triste. Dommage d'autant que la forme en revanche est loin d'être mauvaise. Hein. En fait, le personnage principal passe son temps à voir le monde autour de lui à travers l'écran de son portable. Il fait ce que l'on appelle des snaps, c'est-à-dire des courtes vidéos, et ces snaps sont intégrés au film. Alors ça donne des espèces de plans lunaires, de peintures qui coulent, de lumière sur fond de bonnes productions de rap, et ça donne parfois au film des allures de poèmes visuels un peu clippés, et ça c'est loin d'être mauvais. Bon, voilà, pour conclure, on ne peut pas faire un film sur le sujet de la différence en France aujourd'hui sans s'engager sur le chemin du film politique, c'est inévitable. Et dans ce cas, on ne peut pas se permettre d'être aussi maladroit et d'être aussi cliché. Le réalisateur, avec ce traitement ultra manichéen, fait totalement fausse route. Et pour un road movie, quand même, faire fausse route, c'est un peu ballot.
Ah, quelle bonne conclusion, merci Marine. Donc après Iris et Tour de France, deux films ratés, on va essayer de s'élever un peu avec l'interview de cette émission de Jean-François Laguioni.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Et nous allons parler de Louise en hiver, donc nouveau film d'animation de Jean-François Laguioni. À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison qui dessert la petite station balnéaire de Billigen partir sans elle. Mais les vacanciers, viendront bien la rechercher, pense-t-elle. Finalement, elle doit affronter l'hiver et les grandes marées. Alors elle quitte la ville, s'installe sur la plage, fabrique une cabane. Nous la suivons dans son isolement, telle une Robinson, tentant de donner sens à son présent. Elle se remémore le passé, ses premiers amours, ses discussions avec un parachutiste anglais pendu à jamais. Voilà Louise. Louise en hiver évoque la vie d'une femme à sa mort, probablement, en nous plongeant dans un univers fantasmagorique au ton pastel. Le spectateur est baigné de son de la mer, emmené par une voix off rocailleuse, un récit volontiers mystérieux, avec des pointes de nostalgie et de la douceur. On écoute Jean-François Laguioni parler de son cinquième long-métrage.
Je n'avais pas peur. J'étais contrarié.
Je pars quand même dans cette histoire d'un accident tout à fait réaliste, c'est-à-dire qu'elle a raté son train parce que sa pendule s'est arrêtée, cette pauvre dame. Et à partir de là, il y a une petite dérive progressive sur la solitude. Et le personnage, qui a quand même pas mal d'imagination, va peupler cette solitude d'éléments un peu surréalistes, qui sont des rêves, des souvenirs d'enfance et des choses comme ça.
La vie est partout, comme si elle avait attendu le départ des vacanciers. Tu crois qu'on peut être puni pour avoir oublié la moitié de sa vie ?
Il fallait que les choses soient relativement précises au départ pour faire glisser justement le personnage vers quelque chose de plus poétique, de plus surréaliste, etc. Ça permet de rendre, par contraste, plus intéressant ce qui se passe en elle que si par contre... on la voyait très précisément se débrouiller pour faire du feu. Bon. Je crois que cette opposition-là était importante.
Tu peux pas comprendre. Les animaux se fichent pas mal de la vieillesse.
Qu'est-ce que tu en sais, Louise ?
Allons bon, elle parle maintenant, les bêtes.
Les chiens seulement. Pour les chats, c'était trop difficile. Ils ont abandonné les recherches.
Mais j'aime beaucoup cette technique du récit sous forme de journal de bord. Bon, j'ai fait ça dans la traversée de l'Atlantique à la rame. Ça permet d'entendre le personnage se raconter et de montrer autre chose en même temps. C'est-à-dire, à ce moment-là, le spectateur hésite entre ce qu'il entend et ce qu'il voit. Et ça peut être assez intéressant pour mieux comprendre la profondeur du sujet. J'avais choisi au départ une voix assez fragile parce que dans mes premiers dessins, Louise était quelqu'un d'une petite bourgeoise assez coquette et assez frêle physiquement. Et puis en écoutant des comédiennes que l'on m'a proposé pour faire le personnage, je me suis rendu compte que j'allais m'écarter de quelque chose de plus fort, que je n'avais pas totalement soupçonné dans mon personnage. Et je tombe sur la voix de Dominique Fraud, qui est une voix extraordinaire.
Les rêves que je fais depuis quelques jours, est-ce que ce sont mes souvenirs ? Ça vient comme de petites vagues mystérieuses.
À ce moment-là, j'ai retouché mes dessins pour lui donner plus de poids, parce que finalement, c'est une histoire sur la résistance, c'est une histoire sur la découverte de ce qu'on a en soi, et qu'on ne soupçonne pas forcément, qui est une force de résilience, c'est-à-dire à la suite d'un pépin, comment est-ce qu'on va réagir ? Et voilà, donc le personnage... Je l'ai un peu transformée, je lui ai redonné du poids, j'ai fait un peu plus grosse. Et quand elle marche sur le sable, elle a un pas plus décidé, ses pieds s'enfoncent dans le sable, etc. Des petites choses comme ça peuvent faire basculer un film complètement différemment.
C'était la première fois. C'est drôle, on aurait dit que rien n'avait d'importance. Louise, tout était important.
Voilà, c'était Jean-François Laguioni, réalisateur de Louise en hiver, qui sort le 23 novembre. Un film eh bien, plutôt atypique dans l'univers du cinéma d'animation français. Voilà, que je vous recommande.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Ah oui, alors là justement, on va pas enchaîner sur un film d'action du tout, puisqu'on va parler de Planétarium de Rebecca Zlotowski. Alors deux sœurs américaines, Kate et Laura Barlow, qui sont médiums, arrivent à Paris afin d'exercer leur talent à travers des séances de spiritisme qu'elles proposent à la haute société. Nous sommes dans les années 30 et un producteur de cinéma, André Corben, en recherche permanente d'innovation et fasciné par le pouvoir des deux sœurs, décide de réaliser un film qui les met en scène, afin de parvenir à graver sur la pellicule les manifestations de fantômes. Sa quête le mènera à sa perte, tandis que les deux sœurs voient leur vie changer dans ces périodes d'avant-guerre.
Paris. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommées des médiums américains, les sœurs Barlow.
Depuis que vous êtes entrées dans ma vie, les choses sont si différentes. C'est une grande rencontre.
Are we really gonna make movies?
Nous n'avons pas besoin de construire le personnage d'une spirit, nous l'utiliserons tel quel.
Il faut créer de nouvelles machines,
développer autrement le cinéma.
D'où venez-vous? Where do you from?
Alors, je vais parler comme Manu, mais quelle mouche a bien pu piquer Rebecca Zlotowski ? La jeune réalisatrice nous avait subjugués avec son grand central, histoire d'amour au sein d'une centrale nucléaire qui réunissait Tahar-Rahim et Léa Seydoux. Elle avait, dans Planétarium, alors on cherche encore le sens du titre, hein, toutes les cartes en main pour réussir un film magnifique, mais elle se perd totalement dans ce film flou aux objectifs mal cernés qui nous noie sous de jolis effets de mise en scène sans que l'on comprenne à quoi tout cela doit aboutir. On a l'impression en fait qu'elle ne filme qu'un enchaînement de jolis plans sans lien entre eux. Pour un peu, on les soupçonnerait même de n'être là que pour être insérés dans la bande-annonce. Et de toute façon, le film est tellement dépourvu de corps qu'il ressemble lui aussi à une longue bande-annonce. Alors, il s'agit bien évidemment d'une réflexion sur le cinéma, façon mise en abîme, d'un retour à son essence. La réalisatrice a d'ailleurs délibérément utilisé différentes caméras, de la plus ancienne à la plus high-tech, ce qui rend la forme très intéressante et très belle, mais quand même un peu vide. Rebecca Zlotowski aurait dû s'en tenir à dépeindre la belle relation de sororité entre Nathalie Portman et Lily Rose Depp, mais finalement le vrai sujet du film s'avère être la cabale antisémite contre le producteur André Corben, qui est un personnage, enfin qui est inspiré d'un personnage ayant d'ailleurs réellement existé. Alors côté interprétation, Nathalie Portman, excellente, au sommet de sa beauté, s'impose comme une sorte d'icône du cinéma. Elle est filmée avec une fascination manifeste et méritée qui évoque le personnage de Penélope Cruz dans Étreinte brisée de Almodovar. En revanche, on ne comprend pas trop hein, ce que Lily Rose Depp fait là. C'est quand même le deuxième film de l'année après La Danseuse où elle passe deux heures sans dire une phrase. Et elle est quand même nominée au César du meilleur espoir. C'est incroyable. C'est incroyable. Combien de temps ça va encore durer? C'est son deuxième film hein, en six mois. Non, voilà, donc c'est quand même un petit peu un échec. C'est un joli échec. Un bel échec, c'est plaisant à voir.
C'est esthétique. Bah, on propose aux spectateurs eh bien, de se retrancher sur le Grand Central qui est disponible en VOD,
oui.
Qui était lui en revanche une réussite.
Tout à fait.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Alors la danse s'invite régulièrement au cinéma. Bien sûr, il y a les comédies musicales, mais son âge d'or est révolu depuis longtemps. Hein. Après les années 60, c'en est fini. Même si quelques films se font remarquer. Mais quand il est question de danse au cinéma, c'est souvent eh bien, à la même danse que nous avons à faire. Tout d'abord le classique. On peut prendre l'exemple des Chaussons Rouges de Michael Powell ou de Black Swan d'Aronofsky. Ou encore le modern jazz avec West Side Story ou Femme en passant par la danse de salon. Le tango, la salsa, le swing ou encore le rock. Et là, on n'évitera pas de citer Dirty Dancing. Mais à bien y regarder, il est bien plus difficile de trouver des films qui nous montrent eh bien, de la danse contemporaine. Alors évidemment, son univers est vaste, donc le cinéma arrive à nous en fournir quelques touches de temps à autre, mais pas jusqu'à écrire une fiction qui offrirait une porte d'entrée vers la danse contemporaine. Alors l'un des intérêts de Paulina, Danser la vie, de Valérie Muller et Angélin Préjlocage, est de nous montrer le cheminement vers la danse contemporaine d'une danseuse russe eh bien, promise au ballet du Bolshoï. Alors en termes de tradition de la danse classique, le Bolshoï s'impose comme une référence, comme d'autres ballets russes qui sillonnent le monde sur ce malentendu que si c'est russe, eh bien, c'est bien. Adaptation de la bande dessinée Paulina de Bastien Vivès, le film de Valérie Muller et son compagnon, donc le chorégraphe Angelin Prejlokaj, nous renvoie dans les années 90 à Moscou, en Russie, donc auprès de Paulina, qui pour entrer dans le fameux ballet du Bolchoï doit suivre la discipline du professeur Bojinski. Rigueur, déception, obstination et rupture, quand une fois le Graal obtenu, eh bien, elle est subjuguée par un duo de danse contemporain. Alors c'est pas non plus complètement barré, plutôt dans une veine néoclassique, mais voilà la jeune moscovite qui part en France se frotter à la chorégraphie de Lyria Elzage à Aix-en-Provence. Donc c'est un peu le double de Angelin Prejlokaj, puisque c'est là-bas qu'il est situé, le chorégraphe. Alors elle va devoir apprendre non seulement une nouvelle grammaire chorégraphique, mais également eh bien, éprouver la vie, son corps, les autres, ses sentiments. Et dans ce cheminement, elle va trouver sa propre voie et pourquoi pas offrir son regard sur le corps, sur le monde, à travers la danse.
La Paulina du Bolchoï n'existe plus. Faut que tu sois vigilante. Faut que tu changes ton approche technique. C'est beaucoup plus terrien que le classique.
Fais-moi vivre
quelque chose.
T'as un univers personnel qui passe tout de suite. Les gamins m'en parlent encore.
Je veux pas voir une jolie danseuse, moi. Je veux voir Paulina danser.
Alors, comme nous sommes avec une danseuse, eh bien, le récit de Paulina Danser la vie se nourrit de larges passages dansés. Au début du film, c'est la rigueur classique qui nous frappe, méthode russe ou non. Ensuite, c'est une autre vision. Oui, la danse contemporaine est débraillée, mais obéit également à une technique et se nourrit de son interprète. Alors, même si la lumière et la chaleur d'Aix-en-Provence remplace la neige et le froid moscovite, eh bien, Paulina doit trouver sa place d'exigence en rupture et réconciliation. Elle y parviendra. Les deux réalisateurs rassemblent la danse et la vie avec cette idée conductrice que l'expression d'un corps ne nécessite rien d'autre que du travail. Et pour appuyer cette idée, les réalisateurs ont changé deux éléments par rapport à la BD initiale dont ils s'inspirent. Paulina est issue d'un milieu modeste avec un père immigré géorgien et son parcours ne l'amène pas à être une danseuse talentueuse, donc exit les récompenses, mais à devenir une probable chorégraphe. Deux éléments qui résonnent avec la vie d'Angelin Prejlokaj, le co-réalisateur du film. Alors le film reste sage, mais vraiment bien maîtrisé de bout en bout. Et puis Juliette Binoche interprète donc ce qui apparaît comme le double d'Angelin Prejlokaj. Donc elle interprète la chorégraphe et elle fait une partition vraiment, vraiment hyper intéressante. Et ce sont ces moments-là qui sont, ces moments-là où on est dans l'atelier avec Juliette Binoche qui sont vraiment très intéressants. D'autant que Juliette Binoche a déjà joué avec Akram Khan, le grand chorégraphe anglais. Voilà, c'est Paulina et c'est encore dans les salles.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors Tib est le nom du jeune héros de ce film, qui est une quête initiatique d'un enfant confronté à la violence des adultes, que l'on peut lire comme une fable sur la perte de l'innocence. Hein. L'action se passe en Jordanie en 1916, dans un climat de guerre en plein désert. Mais à moins de connaître vraiment le contexte historique, cette info reste assez abstraite, sans explication réelle. Naji Abu Nawar, le réalisateur, dans un refus tout à fait louable de pédagogisme ou d'historicité, afin de donner un caractère universel à son propos, s'en tient à un récit minimaliste, presque abstrait, qui pourrait en l'occurrence avoir des résonances contemporaines avec ce qui se passe actuellement en Syrie. Le jeune bédouin Tib, accompagné de son frère, suit un officier britannique à la recherche d'un puits. Très vite, il se retrouvera seul et il va devoir survivre au cœur d'un environnement hostile. Alors la première partie, hein, la plus réussie à mon sens, hein, prend des allures de western oriental. La splendeur des décors désertiques où furent tournés d'ailleurs le mythique Lawrence d'Arabie, la fluidité des mouvements de caméra et la beauté de la lumière maintiennent une curiosité, une attention qui culmine lors d'une scène de fusillade très habilement mise en scène, hommage direct au western américain des années 50. Mais dès lors que le jeune héros perd son frère dans des circonstances tragiques, hein, le récit se délite. Le film se perd un peu dans les méandres académiques d'un cinéma illustratif et respectable, mais rapidement ennuyeux. Alors les comédiens, je crois que tous non professionnels quasiment, hein, sont très crédibles.
On s'est tourné avec des bédouins, oui.
Mais aucune émotion ne passe. Hein. Il y avait pourtant matière, hein, notamment lors de la rencontre entre Tib et puis il y a un brigand responsable de la mort de son frère, hein, quelque chose d'un peu plus fort. Mais le film s'enfonce un peu dans la banalité, voire des clichés assez étonnants, hein, mais qui ressemblerait presque à un film hollywoodien. Voilà, c'est un film de festival. Il a été présenté à Venise en 2014 et il n'avait pas trouvé de distributeur jusque-là. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on peut faire du cinéma académique malgré ses qualités plastiques évidentes.
Mmh. Alors du coup, il est distribué en France. Alors c'est vrai que la facture est plutôt classique. Il y a un traitement du son quand même qui est assez intéressant parce qu'il se retrouve donc dans ce paysage où a été tourné Laurence d'Arabie. Et il y a des résonances, il y a le bruit des balles. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a un vrai travail du son. Mais ça, c'est le côté très, très classique et très artisanal finalement d'un cinéma qui nous vient de Jordanie et auquel on n'est pas habitué.
Il sert qu'il y a une belle BO au violoncelle essentiellement, très très belle composition. Je ne sais pas, je connais pas le compositeur, mais
non. En tout cas, voilà, ça peut permettre aussi bien aux spectateurs de faire un petit voyage dans le cinéma jordanien qui est ma foi fort peu connu en France.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Vous avez trouvé la thématique pour la semaine prochaine, hein, c'est ça?
Eh ben oui, thématique saucisse, puisque nous allons parler de la sortie du documentaire Rocco sur Rocco Siffredi.
Et moi, d'un film d'animation, Saucisse Party.
Et voilà, la boucle est bouclée. À la semaine prochaine.